I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La pénurie de puces serait-elle en train d'arriver à son terme? Le métavers est-il en train de prendre son envol? Et Steve Jobs mérite-t-il sa médaille? C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes en juillet 2022. Je suis Patrick Béja. Et vous écoutez le Rendez-vous Tech, et je me rends compte que je n'ai pas les gens à remercier pour les Patreons. Donc, on va vite aller voir de qui il s'agit, et entre-temps, on va dire bonjour à Jérôme, qui est dans son nouveau studio. Comment ça
bonjour
va,
Jérôme ? Bonjour à tous, et oui, nouveau micro, nouvelle voix, mais toujours vieux présentateur.
Écoute, tu disais tout à l'heure que tu ne comprenais pas ce que disaient tes collègues de travail qui ont 25 ans. Claquer au sol, tout ça.
Claquer au sol, ça va, ça fait 4-5 ans que j'ai compris. Mais de temps en temps, ils arrivent avec une expression ça. Et je suis là. Tu sais, il y a un moment d'où tu dis, c'est négatif.
Chez, quand ils disent chez, en fait,
tu viens de dire. Ah ouais, non, chez, ouais, ça va. Mais en fait, le plus dur, c'est de savoir si un truc est négatif ou positif, quoi.
Ah ouais.
Ouais, c'est. Donc t'es là, hein. Je dois le prendre mal ou je dois le prendre bien?
Écoute, est-ce que c'est toi qui les payes? Oui, donc a priori, tu peux te dire que tu dois le prendre bien. Ils te font que des compliments, je pense, non? C'est pas comme ça que ça fonctionne, les sociétés.
Ah ouais, j'avais pas. T'as raison. Je vais leur dire. Je vous paye, alors vous me respectez.
Je crois que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. L'argent amène le respect. Si j'ai bien compris la société, tu vois, c'est
il vaut mieux être craint qu'être aimé.
Justement, c'est le bac, vous avez 2 heures. Est-il préférable d'être craint ou aimé? Pas respecté, hein, aimé. Bonne question. Écoutez, je pense qu'on ne va pas répondre à cette question aujourd'hui, mais on va quand même remercier les Patriotes. Je voudrais notamment remercier Éric Blanquet, qui a rejoint la formidable famille des Patriotes cette semaine. Un grand, grand merci à Éric et un grand merci également aux producteurs de cet épisode. J'ai nommé Olivier Maury et Stéphane Lioret. Merci à vous tous. Vous êtes les merveilleux anges qui volent dans les cieux des podcasts et qui nous permettent d'exister. Donc, un grand, grand merci à vous. Et merci à Jérôme d'être dans cette émission également. On est un petit peu plus tôt sur Twitch et je vois qu'il y a plein de gens qui sont là et qui discutent avec nous. C'est super sympa. Peut-être des gens qui n'ont pas l'habitude de venir et qui, là, peuvent être là grâce à Jérôme. Qui ne pouvait pas faire l'émission à l'heure habituelle. Donc,
et puis c'est peut-être aussi comme nous, on a arrêté le mug, il y a quelques frustrés.
Je récupère. Matin. D'ailleurs, certains suggèrent que tu pourrais leur rendre l'appareil à tes camarades en disant bigre ou fichtre ou diantre, tu vois. Je pense que du coup...
Ventre cingris. Moi, à mon époque, on disait ventre cingris. Hein.
Ou alors, je sais pas, des trucs genre canadiens, genre tabernacle, ou des trucs comme ça qu'ils comprendraient pas, tu vois. Ou peut-être qu'ils comprennent tabernacle, c'est rien. J'ai une super idée, on pourrait parler de tech.
Et bon, c'est une très très bonne idée.
Allez, lançons-nous. Qu'y a-t-il à dire? Alors, il y a quelques infos à retenir. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas genre des méga infos, mais une qui m'a marqué, c'est... Dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, tout ça, du métavers, en gros, d'une part, il y a une augmentation substantielle des ventes de casques de réalité augmentée sur le premier trimestre, de réalité virtuelle, c'est essentiellement l'Oculus de Meta, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend quelque chose dans ce domaine. Une augmentation qui n'est pas ridicule, c'est 240% d'augmentation sur le premier trimestre 2022, selon IDC. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend qu'en fait, la réalité virtuelle ne se porte pas si mal que ça. Alors, elle ne part pas de ventes astronomiques, hein, mais dans une période où il n'y a pas énormément d'excitation au niveau des productions, eh ben, ça continue à se vendre quand même, beaucoup grâce au casque Meta Oculus Quest, qui est autonome, pas trop cher, etc. Donc, c'est un élément important. Et en plus de ça, il y a une autre info que moi, j'ai notée, et que, dont je trouve peu de gens ont parlé, c'est une info qui avait été annoncée il y a quelques semaines déjà, c'est la formation du Metaverse Standards Forum. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Metaverse Standards Forum, Jérôme ?
Oui, car je l'ai traité dans le mug.
Mais très bien, tu es quelqu'un de bien qui sait découvrir les informations importantes.
Tout à fait. Non, mais juste parce que je vais faire le sceptique, hein, il faut un répondant. 241% de ventes en plus, c'est bien, mais si tu pars de zéro, c'est pas top. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Après, un petit peu plus loin dans l'article, on voit que c'est 13 millions d'unités qui pronostiquent en vente. C'est bien, mais c'est pas... On n'est pas à des niveaux de smartphone, tu vois. On n'est pas à des niveaux de... On n'est pas à des niveaux
mass market. On parle de 13 millions, 14 millions pour 2022.
Ouais, donc c'est pas mass market. C'est important de le préciser. C'est bien, c'est mieux, mais c'est pas mass market.
C'est sûr. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gros événements, tu vois, qui pourraient motiver la croissance des ventes de casques de réalité virtuelle. Et que malgré ça, ils ne tombent pas dans l'oubli. Tu vois, ils continuent à vendre un petit peu plus. Donc, il y a des gens que ça intéresse. Il y a des gens qui sont curieux au moins. Ce n'est pas non plus un indicateur indéniable de l'intérêt pour la réalité virtuelle. Mais c'est juste que, bon, ça continue à... Ce qu'il y a surtout, c'est que si on est dans une période de croissance, à un moment où on n'a pas le casque de Sony, on n'a pas le casque de Apple, il y a un potentiel pour l'avenir. C'est surtout ça qui me frappe. Mais sur le Metaverse Standards Forum, là aussi, c'est une question d'avenir. En soi, ce forum n'a rien de révolutionnaire pour aujourd'hui. Mais ce que c'est la formation d'un groupe de travail de l'industrie pour établir les standards du métavers. Et c'est un truc qui me m'irrite, j'en ai parlé déjà dans l'émission à plusieurs reprises, c'est un truc qui m'irrite vraiment la manière dont les médias et le public parlent du métavers en présentant des trucs comme un monde en 3D virtuel, un monde en 3D, comme, je ne sais pas, les Roblox et les Fortnite et les Second Life, ils disent « Oh, ça existait déjà depuis longtemps, machin ». Ils disent « Ah ben voilà, ça c'est le métavers ». Mais vraiment pas du tout, du tout. La vision que présentait Zuckerberg, et je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je suis désolé pour ceux qui le réentendent, c'était une vision de standard interopérable qui faisait qu'on pouvait créer des environnements photoréalistes, si on le choisissait, mais potentiellement photoréalistes, et qu'on pouvait se déplacer d'un environnement à l'autre en emmenant ces objets, etc. Et c'est une série de standards ouverts, comme les standards ouverts du web, ou en tout cas, peut-être pas ouverts, mais en tout cas des standards partagés par toute l'industrie, comme les standards de l'industrie pour le web ont permis l'essor du web et le développement de tous les géants du net qu'on connaît aujourd'hui. Et cette idée était complètement lancée dans le vide parce qu'il n'y avait personne qui travaillait ensemble vraiment pour établir ces standards. Et bien aujourd'hui, le Metaverse Standards Forum a réuni de nombreux acteurs de l'industrie pour travailler à ces standards partagés et interopérables. Il y a vraiment toutes les boîtes qui comptent. Hein. J'en faisais un petit résumé sur le compte Twitter du Rendez-vous Tech pendant ma veille, mais les sociétés que j'ai retenues, c'est Meta, Sony, Microsoft, Qualcomm, Epic, qui fait l'Unreal Engine, donc le moteur de développement, Unity, pareil, Adobe, enfin... Toute la chaîne de production de la réalité augmentée virtuelle étendue, mixée, est présente. Et donc, ça ouvre la porte. Alors, il n'y a pas Apple, mais peut-être qu'ils le rejoindront quand ils auront enfin annoncé leur casque. On ne sait pas. Ils ont parfois tendance à faire bande à part. Mais vraiment, c'est l'une des conditions importantes au développement de ce métavers qu'imaginait Zuckerberg il y a quelques mois ou un an. Et là, c'est une étape hyper importante. Et comme tout le monde est obnubilé par cette mécompréhension de ce que pourrait être le métavers, eh ben personne n'en parle, alors que c'est une étape absolument essentielle, je crois.
Alors, je suis, on va dire, d'un point de vue technique, d'accord avec toi, c'est hyper important. sur un nouveau marché, qu'on établisse des standards. Mais, et là je vais faire le méchant de l'émission, le sceptique.
Attends, est-ce que tu veux faire, ouais. Tu veux faire plutôt, maintenant il y a celui qui arrive, c'est l'avocat du diable.
Non, je vais être le diable carrément.
Ah, carrément.
Okay, bonjour, je suis Sceptique Man.
Sceptique, faut faire attention à l'orthographe parce que sinon c'est pas tout à fait le même genre de.
Ouais, tout à fait. Il faut pas tomber dans la fosse. Ouais, non. Ce que je veux dire, rappelons-nous la 3D à la télé. Juste pour parler. Attends.
Je te laisse. Oui, je te laisse.
Tous les constructeurs ont aussi. Moi, je me souviens très bien de cette étape-là. On va se mettre d'accord sur les normes. Donc, techniquement, ils s'étaient mis d'accord sur les normes. Ce que je veux dire sur la 3D, sur le métavers, je ne demande pas mieux que d'y croire qu'il y a un métavers possible. Mais aujourd'hui, d'abord, moi, je ne suis pas d'accord avec la définition du métavers. Je fais partie des gens, effectivement, que le métavers ne se définit pas en termes techniques, par photoréalisme ou immersion ou casque ou quoi que ce soit. Pour moi, la définition du métavers, elle m'est peut-être strictement personnelle, mais c'est une expérience collective avec un partage d'émotions en ligne.
Jérôme. Twitter, c'est un métavers, du coup.
Non. Parce que Twitter, tu as des émotions, mais elles ne sont pas un moment T collectif. Effectivement, moi, dans ma définition, des Fortnite, des World of Warcraft, des Airspace de Reddit sont des expériences de métaverse. Parce qu'à un moment simultané, des personnes ont vécu une émotion collective en ligne. Et pour moi, mais après, on peut critiquer ma définition. Pour moi, pourquoi j'ai cette définition-là ? Parce que t'auras beau mettre tout le photoréalisme que tu veux, tous les standards du marché que tu veux, avoir épique, machin, et tout ça, si tu n'as pas un truc qui donne envie aux gens de venir, et moi, c'est ce qui me manque dans toutes ces nouvelles, c'est bien hein, d'établir les standards graphiques, etc. Mais pour l'instant, et je vais être franc, il n'y a rien qui réveille mon FOMO du métavers. Je n'ai pas de visière aujourd'hui. Je n'ai aucune intention d'en acheter une à titre personnel, à part pour faire un truc sur ma chaîne.
C'est pour le boulot. Hashtag, c'est pour le boulot, quoi.
Hashtag, c'est pour le boulot. Désolé, il y a une perceuse vient de...
Non, mais ça tombe bien, du coup, je peux te répondre.
Me reprendre la parole.
Ouais. on parle de deux choses différentes, en fait. Toi, tu es en train de dire, est-ce que le métavers va arriver ? Et moi, dans tout ce que je dis depuis le début, c'est pas... Oui, la vision de Zuckerberg va permettre de matérialiser le métavers. C'est juste que ce que les gens ont compris de ce que pourrait être le métavers et ce qu'a décrit Zuckerberg, c'est deux choses complètement différentes. Zuckerberg décrit une présence virtuelle, qui est le point fort de la réalité virtuelle, donc une présence virtuelle dans des endroits qui peuvent être photoréalistes, donc qui implémente le sentiment de présence plus important. Après, est-ce que ça a une utilité ? J'en sais rien. Ça, je ne suis pas du tout en train de dire que ça va prendre, que ça a une utilité. Mais c'est de ça qu'il parle. Et les gens disent « Ah ben non, de toute façon, le métavers existe déjà. » Non, le métavers qu'il décrivait et qui a lancé ce buzz important, il n'existe pas. Il parle d'autre chose. Et là, l'étape dont on parle ici, le Metaverse Standards Forum, c'est une étape essentielle à la potentielle réalisation de sa vision. C'est-à-dire que sans cette étape, sa vision ne peut pas se réaliser. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se réaliser vraiment ? J'en sais rien. Est-ce que ça veut dire qu'elle sera intéressante, utile, qu'elle va se développer ? J'en sais rien non plus. Mais là, c'est une étape importante pour ce développement-là. Et l'établissement de standards interopérables sont aussi importants à la réalisation de son idée, de sa vision du métavers, que les standards interopérables du web l'étaient au développement du web. Donc sans ça, le métavers qu'il imagine ne peut pas se développer. Bon, maintenant, est-ce que ça arrivera ? J'en sais rien.
La vraie question, moi, que je ne peux pas m'empêcher de me poser, c'est est-ce que Mark Zuckerberg, c'est vraiment une vision qu'il a, ou le métavers tel qu'il le définit, lui, est juste un immense écran de fumée pour qu'on oublie Facebook ?
Ah ben, ça peut être les deux en même temps. Ça peut être les deux en même temps, complètement. Là, je ne sais pas, mais ça peut complètement être les deux en même temps. Ceci dit... Bon, peut-être qu'on fera... Vous savez quoi ? Peut-être que je ferai une description un petit peu plus longue du métavers tel que l'imaginait Zuckerberg en after show ou dans un autre épisode, parce que vraiment, les gens comprennent pas. Et même si je suis pas convaincu que ça fonctionnera, il est important de comprendre de quoi on parle. Et il a été hyper clair dans sa présentation. Et malgré ça, la manière dont on parle du métavers est complètement à côté de la plaque. Peut-être qu'on en parlera un jour. Mais... j'ai une bonne nouvelle, à côté de toutes les histoires de métavers, enfin une bonne nouvelle, peut-être, pour les puces. Tu aimes les puces, Jérôme ?
Ah, absolument, ça me gratte.
Ça te démange de savoir que
exact,
tu ne peux pas avoir plus
démange,
de
puces. Les puces.
Bon, d'une part, Samsung est en train de lancer la production de masse de puces en 3 nanomètres. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément vraiment 3 vrais nanomètres. On me l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Mais il n'empêche, c'est une nomenclature, encore plus de finesse dans les puces. Mais au-delà de ça, on a plusieurs signes qui sembleraient indiquer que la pénurie de puces pourrait être en train d'arriver à son terme. D'une part, en Corée du Sud, les stocks de puces ont augmenté de 53% d'une année sur l'autre en mai, et c'est le niveau le plus haut de stock qu'on a eu en 4 ans. Donc ça pourrait potentiellement vouloir dire que on a une demande qui se réduit, en particulier pour les puces de RAM. Donc ça, c'est important. Et d'un autre côté, on a plein de grands constructeurs, Intel, Nvidia, Micron, AMD, etc., qui semblent indiquer que entre la chute des crypto-monnaies et, alors ça c'est un peu moins réjouissant, mais l'inflation galopante, eh ben, la demande en PC de jeu, en smartphone, etc., est en train de se réduire. Et du coup, ça peut vouloir dire que on arrive à voir un horizon vers la fin de la pénurie qu'on a connue pendant la pandémie, et donc les puces pourraient enfin être disponibles un petit peu plus facilement. Alors, ça concerne pas tous les domaines, hein. Il y a des domaines comme l'automobile ou ce genre de choses où ça reste relativement tendu, il y a une grosse pression, mais bon, c'est le début peut-être de ce relâchement de la pression sur l'industrie. Je ne sais pas s'il y a énormément à commenter là-dessus, mais c'est une info hyper importante parce que ça façonne toute l'industrie de la tech depuis maintenant 3-4 ans. Quoi. Enfin, non, 3
Moi, mon pronostic, c'est qu'il faut être quand même à l'affût parce que je pense qu'on va même tomber dans une surproduction. C'est-à-dire, devant la pénurie, généralement, on se met à trop produire. Et donc, en tout cas pour les acheteurs que nous sommes, les fans de tech, à mon avis, il va y avoir des bonnes occasions dans pas longtemps. En tout cas sur certains composants, parce que les chaînes de production ont essayé de rattraper le retard et généralement surproduisent. Donc, qu'est-ce que ça engendre derrière ? Généralement, une baisse des prix pour libérer les stocks. Donc, on verra, mais il y aura peut-être des bonnes occasions à faire, on va dire, vers la rentrée. Mais,
Alors, ça, c'est effectivement... Pour les puces en général, le truc, c'est que la pandémie a accéléré une tendance qui était déjà... clairement sous-jacente, qui était la demande de puces qui était hyper importante. Donc, sur la surproduction, la fabrication, la mise en place des usines de fabrication de puces prend du temps et la demande est vraiment présente parce que, comme on le sait et comme on le dit, il y a des puces partout. Et on a besoin de puces dans tout ce qu'on fabrique. Donc, je ne sais pas s'il y aura une surproduction claire et importante dans tous les domaines. Par contre, là où tu as raison, c'est que, notamment sur le domaine des cryptos, ça provoque un relâchement au niveau du marché des cartes graphiques. Ça devient moins intéressant financièrement pour les mineurs de miner, et donc ils n'utilisent plus leurs cartes et ils les revendent et ils n'en achètent plus de nouvelles. Et donc, on commence à trouver dès maintenant des cartes seconde main, mais forcément, la pression va se relâcher sur toutes les cartes. On commence à trouver des cartes seconde main qui ont baissé de prix de genre 50% pour des GeForce 3070, ouais. 3080, ce genre de choses. Donc là, oui, clairement, ça a une conséquence.
Attention quand même, hein, si vous achetez une carte graphique qui a miné de la crypto, elle n'est pas en très très bon état, hein,
c'est
généralement.
Possible, oui, elle a ouais. été mise à contribution pendant un moment, mais, ouais. mais c'est vrai que les prix étaient tellement fous pendant la pandémie et pendant ces dernières années. Bon, forcément, le fait qu'elle soit disponible d'occasion va ensuite relâcher la pression sur les neuves, etc., donc... ça aura des conséquences. Ouais. En même temps, il y a les 4000 qui sont censés arriver bientôt, donc...
Et puis, on ne sait pas, hein, le marché de la crypto, je sais que ce n'est pas le sujet, mais faut pas, à mon avis, il ne faut pas l'enterrer trop vite, hein, la crypto. Hein,
non, c'est sûr, ça peut reprendre.
Etc. Ça peut reprendre, hein, ça a déjà repris. Hein. Il y a eu des chutes encore plus spectaculaires que celles qu'on vit en ce moment. Hein, dans, la
dans la crypto. Non, non, non. Dans la crypto, il n'y a pas eu aussi spectaculaire que ça, certainement.
Il n'y a pas eu des chutes, mais... Ah si, I agree to disagree.
D'accord. Ouais. Écoute, le Bitcoin, par exemple, n'était jamais passé en dessous des 30 000 depuis sa montée. Et là, il stagne autour des moins en dessous de 20 000. Donc, tu vois, c'est quand même... on pourrait en reparler. Mais, et puis, comme on nous le dit dans la chatroom, le Covid peut revenir aussi, c'est sûr. Mais je pense que, d'une manière générale, les gens commencent à être équipés. Et puis, il y a le facteur inflation aussi qui fait que les gens n'ont pas forcément de l'argent à mettre autant d'argent à mettre dans ces achats-là.
Moi, ouais, je pense que c'est ce facteur-là qui est le plus fort. En tout cas, nous, c'est celui qu'on ressent le plus en créateur de contenu tech. Moi, je pense que c'est la guerre en Ukraine, surtout qui freine les desirata d'achat, enfin l'inflation du coup qui a entraîné. Les gens sont pas en période d'achat, vraiment pas. On a d'autres priorités entre le coût de l'essence qui flambe, le coût de la vie simplement qui flambe. On va dire que la tech, le renouvellement des smartphones, le renouvellement de l'ordinateur, une nouvelle console et tout ça devient vraiment secondaire, voire tertiaire dans les budgets d'équipement des ménages et même dans les préoccupations des gens. Nous, on le voit, hein, les vues en tech sur YouTube ont pris un sérieux coup dans la gueule. Et si tu regardes le calendrier, ça correspond vraiment au début de la guerre en Ukraine, quoi.
D'accord. Intéressant, oui. Non, mais c'est sûr que l'inflation... Et puis... disons que un téléphone qui date de 2019, il fonctionne encore. On peut le garder au moins un an, quoi. Donc oui, je peux. Et c'est le cas aussi pour les ordinateurs. Je pense que ça peut arrêter certains, surtout que maintenant, après 2-3 ans de pandémie, bah, les gens sont au moins équipés au minimum. Si tu n'es toujours pas équipé d'ordinateur qui puisse te permettre de travailler, dans la majorité des cas, hein, pas forcément tout le monde, mais dans la majorité des cas, je pense que tout le monde est équipé d'une machine qui lui permette de travailler. Donc oui, on n'a pas forcément autant besoin qu'au début de la pandémie de renouveler les parcs.
Après, il faut y voir quelque chose de positif, on va dire, peut-être pas pour les industriels de la tech, mais pour la planète. Je pense quand même que le message « gardez votre tech plus longtemps » commence à passer au niveau du grand public. On le voit dans les renouvellements de smartphones, etc. Les durées s'allongent. La tech s'est banalisée aussi. On est globalement moins excité par un nouvel ordinateur, par un nouveau smartphone. Et on prend un peu plus le temps pour le renouvellement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Tu veux nous faire passer ton label de Nowtech?
Take your time, absolument, exactement.
Ouais, je ne sais pas des motivations environnementales qui font ça. Je pense que les gens ne sont pas motivés à acheter des téléphones parce que c'est chiant, un nouveau téléphone, alors que moins
c'est,
avant.
Ce n'est pas forcément environnemental, c'est aussi... et d'ailleurs, Take Your Time n'est pas un label vert. C'est aussi lié au budget et tout ça. Les gens sont... on sort de la période euphorique de la tech... Où on était super excité par des nouveaux trucs. Là, on se dit, bon, j'attendrai peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, de plus en plus souvent, quoi, même chez les technophiles.
Ouais, c'est pas faux. Je crois que ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Je pense que ça a quand même quelques années, même peut-être même d'avant la pandémie, cette
histoire. Ouais, mais ça devient plus mainstream.
Bon, écoute, justement, on va parler de celui qui a provoqué tout ce déluge de tech partout dans nos poches, Steve Jobs. Alors, parlons un tout petit peu d'Apple. En Corée du Sud, ça y est, les développeurs peuvent choisir d'utiliser une méthode de paiement externe plutôt qu'Apple. Et au lieu de payer la commission de 30%, ils peuvent payer 26%, 4% de frais réduits. Super, l'intention de ce combat a été complètement préservée puisqu'ils peuvent faire des économies de fou de 4%. Bref, on va passer à un autre sujet puisqu'on en a déjà beaucoup parlé. L'Apple Watch série 8, pourrait détecter les fièvres. C'est une nouveauté assez intéressante. Il semblerait que... Alors, la température est difficile à prendre, surtout au poignet, mais ils auraient des moyens algorithmiques de détecter pas forcément la température exacte, mais les changements de température, et donc pas vous dire si vous avez tant de température en numéraire, mais vous dire, attention, vous avez une température un peu élevée, peut-être que vous avez de la fièvre, allez regarder, allez mesurer ça de manière plus sérieuse. Moi, je trouve ça évidemment... hyper intéressant. Alors, on va tout de suite penser au Covid et aux conséquences de ça, mais si on prend un petit peu plus de recul, c'est hyper intéressant d'avoir un détecteur de fièvre en dehors même de la pandémie. Donc ça, c'est une chose. Je vais parler d'autres sujets Steve Jobsien avant de te donner la parole. Joe Biden va délivrer la médaille de la liberté, la Medal of Freedom, à Steve Jobs, alors de manière posthume, bien sûr, pour la manière dont il a transformé la communication et les industries de l'informatique, de la musique, du cinéma, etc. Et il va recevoir donc cette Medal of Freedom dans 2 jours. C'est la plus haute distinction, en gros, c'est un petit peu chevalier des arts et des lettres. Enfin, c'est la plus haute distinction civile qu'on peut attribuer à quelqu'un. Il y a bien sûr quelques dizaines chaque année de personnalités qui reçoivent cette médaille. Et ça correspond aux 15 ans de l'iPhone. Ça fait aujourd'hui 15 ans que l'iPhone a été annoncé et disponible. Évidemment, enfin, c'est impossible de penser à l'iPhone et à Steve Jobs sans l'influence qu'ils ont eue sur l'informatique dans son ensemble, la tech dans son ensemble, pour le meilleur et pour le pire peut-être. Mais donc voilà, plus intéressant encore pour l'avenir, c'est cette Apple Watch qui détecterait les fièvres, mais les 15 ans de l'iPhone, c'est évidemment important aussi, quoi.
Déjà sur l'Apple Watch, parce que moi, je suis un gros et de plus en plus fan de mon Apple Watch et de plus en plus utilisateur de l'Apple Watch. Il y a encore 2 ans, je disais, si je l'oublie, je ne fais pas demi-tour. Maintenant, je fais demi-tour si je l'oublie à la maison.
Ah, carrément.
Ah oui, vraiment, vraiment. Ça m'est devenu important. Il y a un truc qu'il faut peut-être expliquer à ceux qui n'utilisent pas ces trucs santé connectés. Souvent, on dit ça manque de précision, mais en fait, on s'en fout. Et tu as bien résumé les choses, et je pense qu'Apple ne prend pas de risque. Ils ne vont pas te donner une température exacte, parce que ça, c'est extrêmement compliqué, comme tu le dis, au poignet. À la limite, dans l'oreille, avec un AirPod, ça sera peut-être plus précis. Mais en fait, c'est pas la précision.
C'est un truc sur lequel ils travaillaient qui visiblement ne vont pas faire avec les prochains
AirPods. Ne vont pas faire. En fait, il faut comprendre une chose. Apple ne peut pas prendre le risque de remplacer des laboratoires médicaux ou des vrais instruments de médecine qui, eux, sont faits pour être précis. Par contre, ce que peut faire la tech... c'est détecter des tendances. Et je reviens sur une rumeur, il y avait beaucoup le lecteur de glycémie. Je peux vous donner un pronostic. Apple, ou d'ailleurs les autres, ne sortiront jamais un lecteur de glycémie exact qui va vous donner votre taux de glucose exact dans le sang. Parce que ça, il n'y a que des appareils médicaux qui peuvent le faire. Et ils prendraient un risque énorme d'erreur. Quand on sait déjà que le taux de glucose, c'est très, très dur à mesurer. Par contre, ces Apple Watch... ou ces balances connectées ou ces trucs vont vous donner une tendance en vous disant « allez voir un médecin » ou « faites un examen ». Et c'est comme ça qu'il faut les prendre. N'attendez pas de cette tech portée tous les jours qu'elle vous donne des mesures précises de température, de glucose, même le poids, et on s'en fout qu'une balance soit précise. Ce qui est important, c'est qu'elle te donne une tendance. Et c'est ça, en fait, à long terme, qui, moi, me rend mon Apple Watch indispensable, c'est que je vois toutes mes tendances santé, en fait.
Et du coup, la question de la fièvre, je pense que ça serait quand même un indicateur hyper important. Pour moi, c'est un petit peu une killer app. Si ça te dit, oulala, attention, t'as de la fièvre, ça peut...
Enfin, ça va te dire, à mon avis, l'appli va te dire... prenez votre température.
Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, évidemment.
On a détecté quelque chose, il y a une marge d'erreur, machin. Moi, j'ai déjà eu une alerte santé de mon Apple Watch. C'est hyper bien fait, parce qu'ils ne veulent surtout pas être anxiogènes. Ils disent, bon, on a détecté un truc. Allez voir un médecin, on sait jamais, mais vous inquiétez pas, hein, c'est probable que ça soit pas grave. Je résume un peu, mais c'était vraiment dans la formulation, c'était « Ne panique pas, Jérôme, tu vas pas mourir au milieu de la rue. » Il y a juste un... En fait, ça m'est arrivé là le jour de la où on a eu 40 degrés là à Paris.
Ah ouais?
Ouais, j'ai eu une alerte. J'ai eu une alerte sur ma watch, ça m'a un peu fait flipper. Mais le message était très dédramatisant. Hein. Et en fait, j'avais rien. Hein. Mais voilà. Mais c'est sûr que j'avais l'organisme qui était à rude épreuve.
Je peux comprendre. J'y étais en plus à Paris, moi, à ce moment. Et effectivement, j'étais la tête devant le ventilateur quand même.
Ouais.
Oui, et on rappelle, pour ceux qui pensent aux capteurs dans l'oreille avec les AirPods, ils y travaillaient. Visiblement, ça ne serait pas au menu des prochains AirPods Pro. Donc peut-être qu'ils auront dans un modèle à venir, mais là c'est plus au programme, il semble, selon les dernières rumeurs. Et puis un mot sur la médaille pour Steve Jobs et les 15 ans de l'iPhone. Évidemment, moi je pense qu'il est indéniable que ça soit, enfin il y a plein de gens qui reçoivent cette médaille, hein. C'est pas genre, c'est comme je disais, c'est un petit peu chevalier des arts et des lettres. Il y a beaucoup de gens qui le reçoivent, mais je pense que clairement, au-delà des controverses qu'on peut avoir sur la personnalité de Steve Jobs, c'est une des personnes qui a le plus compté dans l'histoire de la tech. Et la manière dont l'informatique... Enfin, je pense qu'on a aujourd'hui, bah, l'iPhone a 15 ans, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas imaginer ce qu'était la tech avant l'arrivée des smartphones. Ce qu'était le monde même avant l'arrivée des smartphones. Et l'influence de l'iPhone a été monumental sur le monde, vraiment, dans tous les pays du monde, parce que sans iPhone, non seulement il n'y a pas d'iPhone, mais il n'y a pas d'Android. Ce qu'était Android avant l'arrivée de l'iPhone, ce n'était pas du tout la même chose. Alors là encore, pour le meilleur et pour le pire, mais oui, il a complètement transformé le monde.
Pour moi, c'est amplement mérité, et pourtant, je ne suis pas un fanboy. Enfin, pour moi, il n'y a aucune religion à avoir autour de Steve Jobs. Etc. Mais je pense que c'est amplement mérité. Bien évidemment, on pourrait dire c'est Steve Jobs et ses équipes. Hein. Il n'a pas sorti l'iPhone de la cuisse de Jupiter, mais il faut quand même reconnaître la place et le risque qu'il a pris à titre personnel. Il a l'idée quand même, le projet. Alors certes, c'était un grand égocentrique et il a ramené beaucoup de choses à lui, mais il faut aussi quand même un porteur de fanion et c'est normal qu'il soit récompensé là-dessus. Et effectivement, il n'a peut-être pas inventé le smartphone. On ne va pas réavoir ce débat de geek profond. Il n'a pas inventé le smartphone, mais il l'a rendu public. Étaient vraiment des trucs réservés à des patrons. Enfin, moi, je me souviens
c'était...
de l'arrivée.
Non, mais ce n'était pas les mêmes appareils. Ce n'était pas les mêmes... Tu vois, on... Bon, sans repartir sur les débats, je crois que pour nier l'influence de Steve Jobs sur la tech, il faut vraiment avoir une dent contre lui et être particulièrement pas objectif. Tu vois, et on parle d'iPhone, mais il n'y a pas que l'iPhone qu'il a
bien sûr, bien
créé.
Sûr. Il a une vision.
Et
là,
oui,
pour le coup, on parlait
c'est
de la vision.
Ouais. C'est ça. Et bien sûr qu'il y a ses équipes avec lui, mais il n'a pas fait que l'iPhone. Il n'y avait pas que cette équipe. Enfin, il y a des gens dont on peut reconnaître le génie dans différents domaines, que ça soit des artistes, et même, en l'occurrence, des industriels, des économistes, des politiciens, j'en sais rien. Et ne pas reconnaître le génie de Steve Jobs avec toutes les astérisques qu'on peut mettre à côté de la phrase, c'est faire preuve d'une mauvaise foi absolument fulgurante. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les plus énervés et les plus remontés qui vont nier l'influence et le caractère exceptionnel du personnage. C'est absolument indéniable. Historiquement, on ne peut pas dire autre chose, je crois. Donc, je veux bien qu'on prenne des pincettes et qu'on arrondisse les angles, mais à un moment, il faut aussi affirmer des vérités
clairement,
sont claires, quoi.
Clairement, Steve Jobs avait une vision. Tu vois, on parlait de la vision de Mark Zuckerberg, j'ai encore des doutes. Steve Jobs avait clairement une vision. Je suis assez d'accord avec le fait que de récompenser un individu alors que c'est des équipes, ça peut paraître pas très démocratique, mais quand même, je reviens là-dessus. Ouais, il faut quand même parfois un individu pour driver le projet, quoi, pour avoir une vision, pour savoir dire non, savoir dire oui. Et il l'a quand même fait. Avec d'ailleurs toutes les réserves qu'on peut avoir sur la manière dont il l'a fait. Hein. Effectivement, moi, je suis content de ne pas avoir eu Steve Jobs comme patron, parce que ça ne devait pas être simple tous les jours. Mais on peut quand même reconnaître qu'effectivement, il avait une vision.
Et puis, sur cette histoire d'équipe, je veux dire, quand on parle de cinéma, on encense des réalisateurs, évidemment, qui ne font pas leurs films tout seuls. Et puis souvent, ils travaillent si étroitement avec leur chef-op et leur monteur que sans ces personnes-là, il n'y a pas de film. Pareil dans la musique, il y a plein de domaines où c'est le cas.
Regardez, mais... on est sur un podcast de Patrick Béja et pourtant je suis là.
Sans Jérôme Kainborg, il n'y a pas de Patrick Béja, nous sommes d'accord. Bon, donc effectivement, l'iPhone a 15 ans et oui, ça fait... bizarre de se dire... Mais oui, Kassim nous dit dans la chatroom, il faut séparer l'homme de l'artiste. Grande question.
Voilà,
Ça, ça serait un grand débat et on peut l'avoir à de nombreux égards pour Steve Jobs et pour d'autres, dans d'autres domaines, mais ça n'empêche pas qu'il y a un héritage important. Et justement, on parlait d'héritage et je parle depuis quelque temps de cette idée que la tech a permis à tout le monde... vraiment, littéralement, n'importe qui de devenir créateur, artiste, et la surabondance de contenus culturels et d'informations et de divertissement, la surabondance au sens négatif de la chose, hein, on ne sait plus où donner de la tête, on a 10 services différents qui sont en concurrence pour avoir notre attention, etc. Et bien, encore un exemple, Spotify a implémenté une fonctionnalité d'une société qui s'avait rachetée, qui s'appelait une ancre de bateau, qui permet à n'importe qui de créer son podcast et, dans l'interface de Spotify, d'enregistrer depuis son téléphone un podcast et de le publier en quelques instants. Alors, moi, je suis podcasteur, donc forcément, ça me parle, mais c'est vraiment aussi simple que lancer l'application Spotify, faire un petit... parler 5 minutes dans votre téléphone et publier le truc, et n'importe qui dans le monde a accès à votre podcast. C'était déjà pas super compliqué de faire un podcast, mais là, alors, il faudrait voir si c'est limité à Spotify, si on ne publie que sur Spotify, j'imagine que oui. Mais malgré ces petites limites, c'est quand même hyper impressionnant de voir, là encore, comment la tech et les iPhones, notamment, et c'est possible sur Android aussi, hein, bien sûr, mais permettent, facilitent l'accès à l'information, à la communication, pas que dans le sens de la réception de l'information, mais dans la création. Et c'est encore un exemple de ce dont je parlais il y a quelques temps, que je voulais noter parce que c'est des podcasts. Et après, est-ce que ça veut dire que ça va être des bons podcasts? C'est une autre question.
C'est clair que ça libère la créativité. Mais bien sûr, avant même la technicité de comment on fait un podcast, il faut avoir une bonne idée, quelque chose à dire.
Mais
de faciliter l'accès, parce que beaucoup de gens se bloquent sur la technique, que ça soit d'ailleurs en podcast, YouTube et tout. Moi, j'essaie de leur dire, filme-toi au smartphone et un bon micro et ça passe. Si ton idée est bonne, tu te préoccuperas de la technique plus tard. Le podcast, c'est pareil. Je pense que démarrer un podcast, si tu as une bonne idée, c'est facile. Après, tu auras le temps d'améliorer les choses techniquement. Mais teste déjà ton idée. Un smartphone suffit largement pour faire ça, quoi.
Quand je me suis lancé il y a 15 ans, quand les gens me demandaient comment on fait un podcast, je leur envoyais une liste de... alors, c'est déjà facile par rapport à la radio, mais il y avait quand même une liste de, une 5, 6, 10 outils, logiciels, services qu'il était nécessaire d'avoir pour se lancer dans le truc. Et aujourd'hui, oui, il suffit d'une étape, quoi. Pour YouTube, c'est un petit peu la même chose. Et évidemment, tu as raison, ça ne fait pas une bonne idée, le fait d'avoir la technique. Mais le fait est qu'avant, qu'on ait une bonne idée ou pas, on ne pouvait pas. Là, au moins, quand on a une bonne idée, on peut tenter le coup, quoi.
Moi, je me souviendrai, Patrick, et ça ne va pas nous rajeunir, le premier chocolat chaud avec Patrick Béja, où je venais quémander au grand maître du podcast. Comment on fait un podcast ? Mais c'était ça, hein, la première fois qu'on s'est rencontrés. Hein. Je t'avais contacté pour te demander les flux RSS, les micros et tout ça. Hein.
C'était quoi, 2008 peut-être, 2000, quelque chose comme ça ?
Ça devait être 2009, je peut-être, pense.
Peut-être, ouais.
2009.
Et je me souviens de ce mail que j'avais reçu d'un certain un Jérôme Caralbord, Caralord. Qu'est-ce que c'est que ces noms ?
C'est quoi
villes,
ce nom là ?
C'est quoi ce pseudo ? Tu pouvais pas
me
choisir ton pseudo un petit peu mieux, non ?
Bon. Oh, ça va. Et des noms comme ça, tu dois en avoir tous les jours maintenant. Hein.
Bon, bah écoutez, j'aimerais vous dire une autre chose importante, c'est que si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com/rdv. Et essayez de deviner, RDV quoi ? RDV chaussures, RDV pénurie de puces ? Non, c'est RDV tech, évidemment.
Et RDV chaussures, ça marcherait.
Ah mais...
Pardon. Désolé.
C'est pour ça que j'invite Jérôme. C'est pour ça que je suis content quand il est dans l'émission. Mais tu sais qu'en plus, il y a tellement de fans de pompes, de sneakers.
Ah, mais clairement, ça marcherait.
Ça marcherait, clairement.
Mais clairement.
Ouais. Mais bon, je ne fais pas encore le RDV Sneakers, je fais le rendez-vous tech. Et si vous écoutez, si vous appréciez ce qu'on fait, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et soutenir l'émission financièrement. Il y a deux piliers à l'émission, deux piliers financiers, la pub d'une part et le soutien des Patreons d'autre part. Et il y en a un qui est bien plus important que l'autre, vous pouvez deviner lequel, parce que sans Patreon, eh ben, je suis en mauvaise posture financièrement d'une part, et puis je suis à la merci des autres types de financement. Donc un grand merci à tous ceux qui me permettent d'être fort, indépendant, confiant, et de payer mes repas et mes couches, ou plutôt les couches de ma fille. Bientôt, il n'y aura plus de couches pour la fille, mais il y aura toujours les repas. Enfin, bientôt. Il y a encore au moins un an, je pense. Mais en plus de ça, vous savez que vous avez des bonus, les after-shows, comme on va en faire sans doute un aujourd'hui. Vous avez les éditos, vous avez l'absence de pub dans les émissions, les timecodes, etc., etc. Donc, je vous encourage à aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir le rendez-vous tech si vous appréciez l'émission. Et un grand merci à tous ceux qui le font déjà.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Et nous voici dans la partie reste de l'actu avec quelques infos passées beaucoup plus rapidement. D'abord, on parlait la semaine dernière de la question du tracking pour les règles et des apps de tracking, de la manière dont les autorités pourraient suivre à la trace les personnes qui pourraient être poursuivies pénalement aux États-Unis. Et Lucie avait bien raison, puisqu'elle nous disait « c'est pas forcément les apps de tracking de règles qui me posent le plus de problèmes, ou qui m'inquiètent le plus en tout cas ». C'est, bah, d'une part, c'est l'avis des experts qu'on a eu après l'émission, donc elle était bien inspirée. D'autre part, ce qui l'inquiétait le plus, c'était les recherches Google, ce genre de choses. Et Google a annoncé qu'ils allaient supprimer de Google Maps, alors spécifiquement Google Maps, hein, c'est pas Google tout court, mais Google Maps va supprimer les visites, parce que vous savez que Google Maps peut vous suivre à la trace, hein, et vous suit à la trace d'ailleurs. Pardon, si vous ne leur avez pas demandé de ne pas vous suivre, si vous avez Google Maps sur votre téléphone, eh bien, ils supprimeront les visites au centre d'information sur l'avortement et à d'autres centres d'information de santé en général, quelques temps après que vous les ayez visités, dans le but justement de ne pas avoir l'info si quelqu'un, un gouvernement ou une organisation gouvernementale vient le leur demander, donc c'est pour protéger, dans le contexte des lois dont on parlait la semaine dernière, leurs utilisateurs aux États-Unis. Et puis, il y a un article hyper intéressant sur Section 230. Vous savez, le Section 230, c'est une partie de la loi américaine qui fait que les hébergeurs ne sont pas responsables du contenu qu'ils hébergent et qu'ils peuvent, jusqu'à ce qu'on leur ait signalé, du coup, modérer le contenu sans être responsable de ce qui est posté sur leur plateforme. C'est une loi qu'on soit pour ou contre, enfin, qu'on critique ou non les plateformes comme Twitter, Facebook, etc. Une loi fondamentale au développement du net, parce que si la Section 230 est attaquée ou abolie, ça peut rendre les sociétés en question, les réseaux sociaux en question, responsables de tout ce que postent leurs utilisateurs sur la plateforme. Et même si on n'apprécie pas la manière dont ils gèrent les questions de harcèlement, etc., ça détruirait totalement les plateformes parce que quelqu'un pourrait attaquer en justice Twitter pour quelque chose qu'a dit un utilisateur de Twitter sur Twitter. Et en l'occurrence, quand on parle d'informations sur l'avortement, eh bien, les gouvernements des États américains pourraient attaquer Twitter parce qu'il y a sur leur plateforme, ou d'autres plateformes, hein, des informations sur l'avortement. Donc, le Section 230, qui est particulièrement critiqué aux États-Unis en ce moment parce qu'elle est très mal comprise par les politiques américains, eh bien, est aujourd'hui une ligne de défense, comme le dit l'article de Wired, la dernière ligne de défense pour protéger les informations sur notamment l'avortement dans le contexte de ces lois qui viennent d'être votées.
Ouais, sans rentrer effectivement dans tout le débat, ce qui se passe autour de tout ça est une brillante illustration de tous ceux qui disent « je n'ai rien à cacher » sur Internet. Quand on aborde ce type de débat. Ben si, en fait. ben oui, voilà, vos filles, vos femmes, etc. Donc, tout le monde a des choses à cacher et on est en train de voir le revers de la médaille en temps réel en ce moment. Voilà.
C'est une illustration du fait que les informations ne seront pas utilisées forcément de la même manière par un gouvernement qui changera plus tard. Je crois Exactement. Que c'est surtout ça qui est... à partir du moment où on s'habitue à l'utilisation de ces informations, elles peuvent être utilisées différemment par d'autres gouvernements, autorités ou d'autres entités, quoi.
Et je trouve que ce que ça montre bien, c'est que ça va très vite et parfois par surprise. Même si beaucoup d'Américains sentaient bien qu'avec la Cour suprême, et bref, on ne va pas rentrer dans la technique, mais j'ai l'impression que beaucoup sont pris par surprise quand même et que c'est allé très vite. Donc oui, on se croit dans des gouvernements démocratiques stables avec des droits qui sont bien protégés, les choses vont vite quand même.
C'est ce que je disais un petit peu la semaine dernière aussi. Alors, c'est vraiment un contexte très particulier avec le contexte politique américain et la manière dont ça fonctionne constitutionnellement avec la Cour suprême et légalement avec la Cour suprême. Mais il n'empêche, oui, ça peut basculer. Allez, une petite série de news un petit peu plus rapide. On parlait de réseaux sociaux. Il y a une étude intéressante sur Truth Social, vous savez, le réseau de Donald Trump, et les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à percer. Eh bien, l'une des raisons semblerait être que, surprise, quand on passe son temps à critiquer le big tech, ben, on a du mal à recruter des ingénieurs capables de faire le travail nécessaire pour créer un géant de la big tech.
C'est surprenant.
J'ai trouvé l'article intéressant. C'est pas si étonnant que ça, comme tu le dis, mais il détaille les choses. Et effectivement, bah oui, les ingénieurs qui savent comment fonctionnent les choses n'ont aucune envie d'aller travailler pour aider Truth Social à se développer.
Ouais.
On parlait de responsabilité dans les réseaux sociaux. Il y a une info qui m'a tapé dans l'œil sur Rest of World. Si vous ne connaissez pas restofworld.org, c'est une publication hyper intéressante qui parle des news tech dans le reste du monde, c'est-à-dire pas uniquement en Occident. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la loi spécifiquement, mais il y a une loi en Inde qui a poussé Twitter à supprimer du contenu de manière beaucoup plus agressive. Et pourquoi ? C'est parce que la personne qui est responsable du compliance, ça veut dire le respect des lois dans un pays, était tenue pour criminellement responsable pour le cas où le réseau social ne suivait pas les lois du pays. Ça m'a fait beaucoup penser à un truc que me dit souvent ma femme, c'est qu'elle est juriste, c'est que pour que les sociétés respectent les lois, c'est pas compliqué. Il suffit de faire en sorte que les responsables soient tenus criminellement responsables de l'infraction des lois. Et là, tout ouais, à là, coup, toute l'organisation est focalisée sur le fait de bien respecter les lois, comme par magie. Alors, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, parce que évidemment, ces lois peuvent être dans des pays où ça peut être... comment dire ? Ça peut tuer la liberté d'information. Ça peut... Évidemment, c'est dans les deux sens. Mais c'est intéressant à noter quand même de voir à quel point, quand on rend la personne responsable, criminellement responsable, tout à coup, tout se passe bien. Enfin, tout se passe bien. Mmh. Ils respectent les lois.
Vous trichez avec les impôts, hop, prison.
Et ben voilà, exactement. le timbre digital arrive. Je te vois octer en entendant digital.
Alors déjà, c'est le timbre numérique, Patrick. Parce que bah sinon, oui. Le digital, bref.
Bah écoute, c'est avec les doigts. On l'écrit avec les doigts.
Voilà, on le colle avec les doigts, ouais.
Ouais. Je me demande si déjà à ce niveau-là, il n'est pas temps de déclarer forfait. Tu vois, pour digital numérique, je crois qu'à un moment, les langues évoluent, les langues changent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, ok, maintenant, tu digital vois, alors, veut aussi dire numérique?
Je suis le premier à détester ceux que j'appelle les correcteurs orthographiques,
ouais.
Ceux qui te reprennent parce que tu as fait un anglicisme, etc. Autant j'avoue que sur le combat digital-numérique, le problème, c'est que digital en français veut dire vraiment autre chose.
Oui, mais enfin, quand on te dit timbre digital, tu vas pas mal comprendre de quoi il s'agit non plus.
Ah, c'est peut-être un timbre que je mets sur mon doigt, un patch anti-tabac ou quelque chose comme ça. Non, t'as raison. C'est peut-être un combat d'arrière-garde. Mais
Je crois. Moi, je suis tout à fait pour aussi l'idée de conserver l'usage numérique, mais tu vois, à un moment, il y a peut-être d'autres combats à mener aussi.
Bref, comme par exemple, même.
Mais bon.
Nous, on essaye d'être précis, on essaye d'être correct. C'est un timbre numérique.
Bah écoute, il s'appelle le timbre digital officiellement. La Poste l'appelle le timbre digital. Donc après, peut-être que si tu vois...
Je vais leur envoyer l'Académie française, ça va chier. Hein.
Non, mais c'est un nom. C'est un nom, c'est le timbre digital. Donc ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Mais bref, comment ça fonctionne ? C'est assez malin. Alors, il faut avoir l'application PTT, l'application des postes et télécommunications. PTT, c'était poste, télégraphe et télécommunications, non ? Je crois.
Exactement.
Ouais. Donc, il faut avoir l'application de la Poste et on peut ensuite acheter un timbre digital. Qu'est-ce que c'est que le timbre digital ? Ben, c'est une suite de, je crois, 9 caractères alphanumériques qu'on va écrire sur l'enveloppe et qui vont être donc un timbre, le timbre que vous avez payé. J'avais calculé d'ailleurs, je me suis dit, mais attends, 9 caractères seulement, c'est 8 ou 9 ? 8. 8 seulement, ça fait pas beaucoup. Et puis j'ai calculé le nombre que ça fait. Ça va, on a le temps de voir venir avant de devoir en générer de nouveau. Et donc ensuite, les machines lisent le truc et c'est considéré comme un timbre. C'est évidemment un truc. Alors, je suis partagé entre c'est malin et il était temps. Mais bon, moi, je trouve ça pas mal. Tu sais, il y a beaucoup de pays où on peut acheter des tickets de métro en SMS et ils te donnent un chiffre qui est ton ticket de métro quand tu as payé par SMS.
Mais je crois que même les timbres, c'est en Suisse, il y a déjà ce type de timbre numérique. Je crois que c'est en Suisse, je ne me trompe pas. Je trouve ça génial parce que la galère d'aller chercher son carnet de timbre quand tu habites loin de tout, et beaucoup de gens en France, mine de rien, habitent loin d'un bureau de tabac ou d'une poste, etc. Le snail mail, comme on l'appelle avec mépris, on en a quand même encore besoin. Il y a encore des choses à envoyer, ne serait-ce que des colis ou des trucs comme ça. Enfin, quoi, parce que alors, moi...
Alors, les colis, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera. Là, c'est pour les
oui,
lettres,
mais
de 20, parce qu'il faut les peser, tout ça. Mais,
ils les tendront. Ils les tendront au bout d'un moment, peut-être, on espère. Non, moi, je trouve que ça va dans le bon sens.
Je suis d'accord. C'est pour ça que c'est cool. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu le faire avant ? Certainement, mais c'est quand même super que ça arrive. Quoi.
Et alors, deux, trois grincheux qui... Ah, mais il n'y aura plus de timbres à collectionner. Si, toujours des timbres à collectionner, rassurez-vous.
Oui, et puis,
mais personne ne collectionnait les timbres verts et rouges Marianne autocollants. Hein. T'en as un, ça suffit, quoi. Voilà.
Mais tu sais, je pense parfois à ça spécifiquement, aux philatélistes. Parce que moi, encore une fois, on va peut-être un petit peu marquer notre âge, mais quand j'étais plus jeune, la philatélie, c'était un vrai passe-temps, une vraie activité. Et je suis sûr qu'il y a encore des philatélistes
qui
vont dire, mais bien sûr, mais je veux dire, enfin, tu te rends compte à quel point on s'emmerdait dans la vie que ce qu'on faisait, c'était de chercher des timbres. Et puis c'était un petit peu l'exotisme,
alors,
tu vois,
alors
tu cherchais
là, Patrick,
des timbres de différents
pays. Je t'arrête tout de suite. Tu
as une
crois
collection
que c'est
timbres,
net...
tu es un classeur
tu crois que c'est nettement moins intéressant les timbres que des cartes Pokémon ?
Moi, je ne suis pas super fan de cartes Pokémon, mais...
ce que je veux dire, en fait, un collectionneur... Tu sais, il y a des gens qui collectionnent des étiquettes de camembert,
mais c'est ça que je veux dire, c'est que... C'était, comment dire, la place que prenait la philatélie dans l'inconscient collectif sociétal était énorme. Et je veux dire, un des loisirs que tu pouvais faire, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est genre un philatéliste et t'avais des boutiques où tu vendais des timbres, il y avait j'arrive pas bien à expliquer, mais on s'emmerdait tellement qu'on cherchait des passe-temps comme la philatélie, alors que sérieusement, collectionner les trucs de camembert,
désolé,
tu comprends ce que je dis ou pas ? Non, t'es pas d'accord.
Je comprends, mais je suis pas d'accord. Moi, pour avoir eu un grand-père qui était philatéliste.
Ah, ben voilà, je touche
à ta filiation. Non, mais dans le timbre, il y a le voyage. C'est ça qu'il faut bien voir. Un collectionneur de timbres va chercher des timbres rares d'à travers le monde. C'est toujours, parce qu'il y a toujours des philatélistes, aussi une manière de voyager. C'est comme collectionner des cartes postales, etc. Et comme collectionner des cartes Pokémon. C'est là
mais aujourd'hui...
tu dis, on s'emmerde tellement, mais aujourd'hui, des gens collectionnent encore des cartes de Pokémon. Et c'est pas plus intéressant que des timbres, des cartes de Pokémon.
Non,
aussi intéressant que des timbres.
Je dis pas ça. C'est plus la place que ça prenait. Et on nous dit dans la chatroom, philatélie versus doomscrolling sur Instagram, c'était mieux avant. Ok, effectivement.
Philatélie ou TikTok?
Oh, TikTok, ça peut... Mais je préfère, tu vois, je sais pas, Stranger Things saison 4, par exemple, tu vois, c'est un petit peu plus...
Non, mais c'est évident.
Mais je comprends.
Là où je suis d'accord avec toi,
il
y a un truc, c'est qu'on avait beaucoup moins de loisirs il y a pas si longtemps. De temps de loisirs. Globalement, dans la vie, on avait beaucoup moins de temps de loisirs. Nos temps de loisirs, c'est tellement étendu... que moi, je dis aujourd'hui, tu peux très bien être philatéliste et regarder Stranger Things.
Hein. Oui, peut-être, c'est vrai. Non, et puis, si tu veux, dans le principe, la philatélie, effectivement, il y a tout ce que tu dis, il y a le voyage, la magie du truc, l'idée que tu envoies les mots et les choses à travers. Mais aujourd'hui, tu es intéressé par le Japon, tu vas sur YouTube regarder, Louis-San ou n'importe qui, et tu vas voyager toi-même plutôt que d'imaginer par le truc ou en collectionnant les... Du coup, quelqu'un qui est philatéliste aujourd'hui, je dirais justement, il y a presque une sorte de recherche, pas historique, mais on y touche presque, tu vois, il y a quelque chose d'éthéré, de magique. Alors qu'avant, on faisait ça, pas autant par choix, mais juste parce qu'on s'emmerdait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu sens la petite différence ou je me fourvoie ?
Non, en fait, non pas vraiment. Non, d'accord, pas d'accord. Vraiment. Je pense que les timbres d'hier sont les cartes Pokémon d'aujourd'hui.
D'accord.
Les collectionneurs, il y en aura toujours parce que partie de la psyché humaine. Après, il y a des trucs qui sont à la mode ou pas à la mode dans les collections, dans les cours de récré. Mmh. Je veux dire, effectivement, du temps de nos grands-pères, il n'y avait pas des cartes Panini. On collectionnait des timbres. Et à la récré, on s'échangeait des timbres. Je pense pas que c'est parce qu'on s'ennuyait plus ou moins ou Et pour moi, un timbre est à la fois aussi ennuyeux et aussi passionnant qu'une carte Pokémon.
Mais arrête avec tes cartes Pokémon, j'ai pas parlé.
Bah oui, non mais. J'ai dit, qu'est-ce que
je
te dise ?
Non mais parce que moi, en fait, ce dont je parle, c'est plus les collections en général. Donc les cartes Pokémon, je vais les mettre un petit peu dans le même panier. Et les cartes Pokémon, c'est beaucoup parce que y a des gens qui ont une affection particulière avec les Pokémon. C'est un truc de leur enfance, machin. Mais si tu veux. Pour te faire plaisir, je vais mettre les cartes Pokémon dans le même panier que les timbres. Et du coup, je vais finir de mettre à dos l'intégralité des auditeurs de l'émission. Donc, juste pour dire, Fanny suggère qu'il faut trouver des comptes de philatélie sur TikTok. Je suis sûr que ça existe. Et dès que Pascal nous dit, on parle des maquettes de bateaux dans les bouteilles. en même temps, il y a des gens qui font des peintures de figurines Warhammer en live sur Twitch toutes les semaines. Ouais. Donc, oui, bon, ok.
T'as déjà vu comment on fait une maquette de bateau dans une bouteille? C'est un truc de malade, hein.
Ah mais je suis sûr qu'il y a des comptes Twitter qui te montrent ça et que tu es absolument survécu.
En fait, tu montes les mâts avec des ficelles, quoi. Genre, tu te plantes, il faut péter la bouteille, quoi. et tout recommencer, c'est horrible.
Bon, voilà, elle nous dit, ça s'appelle un hobby. Ok, d'accord, bon, très bien. Allez faire vos collections de timbres, j'ai rien. Non, je crois en fait que j'ai pas bien réussi à... Vous avez raison, mais je crois que j'ai pas bien réussi à exprimer ce que je voulais exprimer, donc je vais y réfléchir, je vais me retirer et réfléchir à l'idée que j'essaye de faire passer et l'exprimer un petit peu mieux une prochaine fois.
D'accord.
Zoom est en train d'essayer de revenir à la conquête des usagers corporate parce qu'ils ont essayé de monétiser les usagers gratuits pendant toute la pandémie, ils n'ont pas réussi. Donc c'est marrant parce que la croissance de Zoom a été absolument invraisemblable. Il y a eu des plusieurs trimestres en 2021 à presque 400% de croissance. Et bon, je suis sûr qu'ils font plus d'argent qu'avant, mais ils sont quand même pas en position qui correspond à leur croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont quand même réussi à s'imposer. Hein. Tout le monde utilise Zoom, mais...
Il y a un truc très intéressant. En fait, Internet, l'ensemble d'Internet est un jalon en économie pour moi pour un truc. Autrefois, quand tu attirais plein de gens autour d'un produit ou d'un service, ça voulait dire que ta société marchait et que tu gagnais de l'argent.
Ouais.
Internet, avec cette notion, bah, un truc gratuit que tout le monde adopte, bah, c'est assez facile parce que c'est gratuit.
Ouais.
Après,
ça ne veut pas dire que ça va forcément
faire
de l'argent.
Voilà. Et c'est exactement, moi, je l'explique souvent à des jeunes YouTubeurs, tu peux faire plein de vues et gagner pas une thune, hein. On a encore le psyché de nos grands-pères qui était quelqu'un qui a du succès ou quelqu'un qui fait des gros chiffres doit forcément gagner beaucoup d'argent. Non, tu peux gagner zéro en ayant une énorme audience ou un produit qui cartonne mais dont tu n'as absolument pas assuré le business model. Et ça, hyper important.
Ouais, je vais nuancer un tout petit peu à partir du moment où tu as une énorme audience. Sur YouTube, par exemple, tu vas te démerder pour faire de l'argent. Zoom, par exemple, ils gagnent beaucoup d'argent aussi. Ils ont clairement... C'est vrai qu'on voit plus de Meet et de Teams, mais... alors, je ne sais pas, mais tu vois, en...
Ah, bah oui. Non,
l'année dernière, en juillet, ils avaient gagné 1 milliard sur le trimestre, Zoom. Donc, ils faisaient de l'argent quand même, tu vois. C'est pas
non, mais bien évidemment, dans le modèle freemium, tu te bases sur le nombre de gens prêts à payer pour ton service.
Ouais.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas automatique. Quand
je suis d'accord, ouais, c'est vrai. On prend par exemple Clubhouse qui a fait beaucoup de buzz. Bah...
Exactement.
Ouais, tout à fait.
Pas une thune.
Quoi d'autre ? En Chine, il y a une dizaine de sociétés, enfin d'entités qui se sont réunies pour créer un système d'exploitation open source pour enfin se départir de Windows et macOS. Je trouve ça intéressant parce que ça fait des années et des années que la Chine et d'autres essayent de développer une alternative aux systèmes d'exploitation occidentaux. Et là, avec ces acteurs-là qui se réunissent pour faire un truc en open source, peut-être que ça pourrait enfin donner quelque chose. Et si ça donne quelque chose, c'est Killingsoft qui est à la base de l'initiative, si ça donne quelque chose, bah, ça pourrait changer de manière assez radicale le panorama, l'environnement tech mondial. Alors, ça ne va pas donner quelque chose tout de suite, mais dans les quelques années à venir, il faudra surveiller ça. Ah, et au propos de la Chine, justement aussi, ils ont banni les Tesla d'une ville où ils avaient un meeting secret du parti qui s'appelle Beidaihe, je crois, la ville, pour les deux prochains mois. Mais c'est intéressant parce que ce que ça souligne surtout, c'est à quel point les capteurs, les caméras, mais pas que, et tous les capteurs sont partout, y compris dans les voitures, et qui peuvent aussi, du coup, ça va être peut-être un nouveau vecteur. Alors, pas forcément les gouvernements qui vont les bannir de quelque part où ils veulent faire des trucs secrets, mais peut-être être utilisé, je suis sûr que c'est déjà le cas, mais encore plus au fur et à mesure que ça va s'étendre, être utilisé par des gouvernements pour des enquêtes ou pour avoir vraiment cette sorte de surveillance généralisée tout le temps partout, pas que avec les smartphones et les appareils tech classiques dans le sens où on les entend d'habitude, mais si toutes les voitures commencent à avoir des caméras tout le temps qui filment tout et qui gardent ça parce qu'on a besoin des boîtes noires pendant quelques temps, on aura vraiment des caméras partout qui seront accessibles ensuite, quoi. C'est un petit peu une réalisation un peu... Ok, bon, bah on...
Ouais.
Il y a aussi... on parlait de Meta, je voulais juste mentionner rapidement le fait que ils sont en train de copier Discord. Après avoir tout copié, et ben les Facebook Groups sont en train de ressembler très, très, très sérieusement au look de Discord. Mais vraiment, hein, les groupes sont alignés, comme sur Discord, C'est la gauche ou la droite ? La gauche. Et puis, il y a les lignes. Enfin, vraiment, ça ressemble carrément à Discord.
C'est tellement bien, Discord. Ah, franchement, moi, je suis un gros fan de Discord.
Mais carrément, rejoignez-nous sur le Discord du Rendez-vous Tech et du Rendez-vous Jeu.
Mais tu vois, toute l'entreprise... nous, maintenant, toute la vie de l'entreprise, je ne parle même pas que de la communauté, mais toute la vie de Nowtech et le télétravail a été tellement facilité par Discord pour nous.
Ah, mais c'est l'un des gros gagnants de la pandémie, je pense, clairement. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant de voir que... Bah, alors déjà, je ne sais pas pour qui ils font ça, parce que les vieux, ils ne vont pas aimer. Les vieux, ceux qui sont sur Facebook, ils vont pas aimer. Et personne qui est sur Discord va aller sur Facebook Groups. Mais bon, je ne sais pas, bref, ils font ça. Mais c'est intéressant de voir comme ils copient, et puis Instagram copie les Reels, et puis ils mettent les NFT pour les profils sur Meta, comme ils l'avaient fait sur Instagram. Ils sont peut-être un peu en retard. Mais ça me permet de conclure avec les histoires de NFT. Three Arrows Capital, qui était l'une des boîtes de... un hedge fund, en fait, spécialisé dans la crypto, a fait banqueroute. Et on en parlait, je crois, il y a une semaine. Enfin, j'en parlais dans la veille sur RDV Tech, sur Twitter. Ça peut avoir des conséquences sur l'ensemble de l'industrie crypto parce qu'ils avaient beaucoup prêté et là ils viennent de faire. Ils avaient beaucoup investi.
C'est tout le système de crédit autour de la crypto et des NFT qui est en train de s'effondrer.
C'est ça.
Ce qui est un très mauvais signe.
Et il semblerait. Alors, on va quand même avoir un petit truc positif dans l'effondrement de la crypto. La Corée du Nord avait volé beaucoup de crypto et se reposait sur cette méthode pour financer certaines de ses activités. Et forcément, du coup, leur programme, et notamment pour financer leurs armes, avec la chute des cryptos, ça coupe une partie de leur financement. Donc, je ne sais pas, toute chose malheur est bon, j'imagine. La Corée du Nord a un peu moins d'argent pour financer ses armes.
Ouais, une petite pensée pour tous ces marchés... sombre et obscur, basé sur la crypto, qui vont avoir des fins de mois difficiles.
C'est ça.
Avec énormément d'ironie, hein, team premier degré, m'attaquez pas, s'il vous plaît.
Est-ce que tu as vu cet article où on voit des gens qui, Marc Andreessen et Paki McCormick, qui sont des gros défenseurs de la crypto, qui essayent d'expliquer à quoi ça sert, vraiment avec des cas précis, et qui se perdent complètement en route, l'utilisation des NFT notamment, pas toute la crypto, mais les NFT notamment, c'est assez édifiant, parce qu'ils ne tiennent... Bon, bref, je ne vais pas me relancer. Il y a encore des gens qui vont s'énerver.
Là, je vais faire mon avocat du diable, mais je suis en train de devenir... Alors que tout s'effondre... Je suis en train de comprendre l'intérêt du truc.
Des NFT
On va dire de la blockchain, globalement. Je pense que le problème, c'est que le mot NFT, le mot crypto, porte les stigmates des outrances de la blockchain. Mais en soi, je commence à voir et l'intérêt de crypto-monnaie, ou en tout cas de systèmes de valeurs liés à la blockchain. Et surtout, les NFT, je commence à m'éveiller à l'intérêt. En fait, c'est juste venu d'un mec qui m'a donné une analogie qui, pour moi, résume très, très bien les NFT en m'expliquant que, d'une certaine façon, les NFT étaient des contrats. Et dans un contrat, tu peux mettre plein de choses différentes hein, dans un contrat. Mais c'est un document, pour ceux qui travaillent et qui savent ce que c'est que la valeur d'un contrat, je trouve que c'est une meilleure explication que de dire c'est un certificat d'authenticité.
Mmh. Ouais, le contrat,
qu'un NFT soit un contrat, c'est intéressant. Parce que du coup, ça te fait comprendre en quoi, par exemple, les NFT dans des jeux vidéo pourraient être intéressants. Je sais, c'est très polémique, mais
le truc c'est que
je relancerai juste le truc. Aujourd'hui, tout le temps que tu passes dans un jeu vidéo appartient à l'éditeur du jeu. Et alors, est-ce que c'est normal? Je pose le débat.
Ouais, bon, je vais pas me relancer dans cette question parce qu'on en aurait pour très longtemps. Ouais. Moi, je pense que les NFT dans le jeu vidéo, c'est une idée théorique qui est intéressante, mais qui en pratique n'amène rien de bien. Mais au-delà de ça...
Alors, oublie le mot NFT et je te dis, mettre des contrats d'utilisateurs certifiés qui me garantissent que les objets, par exemple, que j'ai accumulés avec mon temps de jeu, ils sont vraiment à moi.
Oui, oui, et je peux te garantir que ça n'amène que des choses négatives. Et on pourrait en reparler plus longuement, si tu veux, un jour, mais ça n'amène pour le jeu vidéo que des choses... En fait... ça transforme l'économie du jeu vidéo en faisant en sorte que l'intérêt du jeu l'intérêt passe du temps de jeu pour le temps de jeu au temps de jeu pour l'accumulation de richesses, entre guillemets. Et ça transforme la manière dont non seulement chaque personne y joue, en théorie, toi, tu peux y jouer tout seul dans ton coin, mais ça transforme toute l'économie autour. Moi, l'exemple simple que je te donnerais en contre de ton explication, c'est le gold dans World of Warcraft dans les 3, 4, 5 premières années. Tu vois, il y avait des gens qui allaient chercher dans le jeu de quoi accumuler de l'argent virtuel pour le transformer en argent réel. Et donc, toutes les activités étaient influencées par ça. Même toi, quand tu voulais aller chercher une ressource pour faire ton crafting, tu étais en concurrence avec des gens qui faisaient ça professionnellement et qui faisaient leur route, parfois même des bots, qui allaient récupérer les ressources avant que toi, tu ne puisses y arriver. Et ça les rendait beaucoup plus rares et beaucoup plus difficiles à accéder.
Des philatélistes dans les jeux.
Exactement, exactement.
Exactement. Les philatélistes sont la source de tous nos problèmes.
Mais ceci dit, je suis d'accord que technologiquement, il y a plein de choses intéressantes dans le Web3, dans les NFT, dans les cryptos. Et sur ce point, moi, je continue à dire qu'on trouvera peut-être des applications un jour. Aujourd'hui, j'en vois pas trop, mais technologiquement, il est certain que c'est intéressant. Mais bon, bref, on va pas repartir dans ce débat.
Bref, oui, non, moi, ça serait intéressant qu'on en discute un jour.
Peut-être.
Ouais, tous les ça deux. Serait cool.
Moi je faisais juste un petit peu de comme le titre The Atlantic, The Petty Pleasures of Watching Crypto Profiteers Flounder. C'est vraiment les plaisirs coupables, minables, tu sais, de les voir.
Mais
vraiment,
oui.
C'est petit,
vous avez fait fortune, et moi pas. Mais je suis avec mon livret A et je te regarde.
Réussir à expliquer en quoi les NFT pourraient changer l'immobilier. Tu te perds dans tes explications. Qu'est-ce que t'es bête, et moi, je suis intelligent.
Il y a un truc quand même, quand même, les crypto-bros, les fameux qu'on adore détester, ceux qui ont investi il y a 2-3 ans, malgré toute la chute actuelle, ils ont gagné énormément d'argent,
évidemment. Ils se portent bien. Non, mais c'est pas pour eux qu'on a mal, c'est pour tous ceux qu'eux ont arnaqué en leur...
En fait, c'est ça.
Tu vois, c'est ça le problème.
Et on a confondu, en fait, investissement et épargne, mais ça sera le sujet peut-être d'une autre émission.
Une autre émission. Merci, Jérôme, d'avoir été avec
nous. Un grand merci à toi, Patrick. C'était super cool. Je suis vraiment encore désolé des problèmes d'organisation.
Mais il n'y a pas de souci.
C'est de ma faute. Mais à culpa, mais à maxi culpa.
Jérôme, je suis toujours heureux de pouvoir passer un moment avec toi, quelles que soient les conditions, et je suis sûr que c'est le cas des auditeurs aussi, la majorité d'entre eux, on va dire. Et justement, si certains veulent passer encore plus de temps avec toi, où pourraient-ils aller? Dis-nous tout.
Alors, Là, on est en pause estivale de notre émission matinale. Donc, juillet-août, elle ne sera plus là, notre émission matinale. Mais on va faire plein de trucs sur Twitch. Et surtout, si vous êtes intéressé un peu par les setups, on est en train de mettre au point notre nouveau studio. Patrick a eu un glance du nouveau studio.
Un sneak peek. Je vais montrer un petit peu. Incroyable.
Un sneak peek du nouveau studio. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez des questions aussi hein, sur les technicités audiovisuelles, live, etc. On sera là tout l'été. On va faire du gaming aussi. J'ai envie de faire beaucoup plus de gaming que pendant l'année. Sinon, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre chaîne YouTube Nowtech.
Merci Jérôme, le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotePatrick absolument partout et NotePatrick.com pour avoir les liens vers tout ce que je fais. Alors, les enregistrements en live sur Twitch, les replays en vidéo sur YouTube, si vous voulez aller sur la chaîne de replay, et puis bien sûr le Discord, où on passe d'excellents moments. C'est un petit peu comme les forums de l'ancien temps, les Discord, c'est un endroit un petit peu isolé, sympathique, non ? C'est
pas, mieux foutu quand même.
Bien sûr, mais je veux dire... Tu sais, le lieu sur Internet, je trouve que ça remplit un peu la même fonction. Et puis, bien sûr, patreon.com/rdvtech. Le lien est directement dans les notes de l'émission. Quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling. Et vous vous dites, c'est le moment d'aller voir du côté de Patrick. On vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous êtes patriote, justement, vous aurez cette petite discussion, explication sur le métavers en after show. Et puis sinon, j'ai oublié de le dire, c'est les vacances. Jérôme, tu reviens la semaine prochaine pour animer l'émission à ma place.
Ah oui, c'est vrai. Peur. Putain, j'avais oublié.
Mais on t'a envoyé un mail hier, Jérôme.
Oui, je sais, mais je reçois beaucoup de mails en ce moment. Il faut que réponde.
Ok, oui. Bon. J'espère
à
que
la
tu
semaine prochaine, tout le monde.
C'est
non,
ça.
Non, j'oublierai pas, t'inquiète pas, Patrick. T'inquiète pas.
Et puis, il y aura
t'inquiète
quelques...
pas. Pars en vacances tranquille, Patrick. On va s'occuper de tout.
Bon, il y aura Jérôme la semaine prochaine, des épisodes spéciaux après, et puis je reviens début août. Je vous fais de grosses bises et à très vite. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.